Alors, un bienvenue, hein, comme nous l'avons dit et redit encore, hein, ceux qui voilà, sont de passage parmi nous pour nous rendre une visite. Et c'est une bonne chose que de vivre ce temps ensemble. Soyez ici comme dans la maison du Seigneur, non pas que ces murs ont quelque chose de particulier, mais ce qui est à l'intérieur de ces murs est vraiment pour Dieu quelque chose de particulier. La méditation, prédication d'aujourd'hui. Voilà. Un riche bien trop pauvre. Ah, connaissez-vous ce tableau? Non. Si vous l'avez chez vous, c'est très intéressant. C'est un tableau de Rembrandt. Et vous en avez un faux. Ou alors vous avez le vrai et le musée en a un faux. Bon, on verra ça après. Donc, ce tableau de Rembrandt, en fait, illustre la parabole du riche insensé que Jésus a raconté. Hein? Et si je devais donner un titre, j'ai préféré celui-ci, hein? Un riche qui se croyait riche, mais qui en réalité était bien trop pauvre. Hein? Jésus leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Cet homme raisonnait en lui-même et disait: que ferais-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme: ah, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Alors repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, dit Jésus, de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste apporter une précision. Jésus utilise souvent des paraboles pour expliquer une vérité, pour illustrer un enseignement. Il ne s'agit pas de faire des principes doctrinaux et de tirer voilà, qui enfermeraient des tas de vérités. Une parabole est là pour illustrer une pensée, une vérité. La vérité de Jésus ici, qu'il veut enseigner, concerne les richesses. Plus exactement, la place qu'elles peuvent avoir dans la vie d'un homme. Plus exactement, la confiance que l'on peut attacher à ces richesses. Jésus ne s'en prend pas aux riches, hein, mais il s'en prend à l'attachement que les richesses peuvent susciter, aux faux sentiments qu'elles engendrent. Cette histoire, en fait, à l'origine, c'est deux frères qui se battaient pour un héritage. Et il y en a un qui ose interpeller Jésus en demandant à ce qu'il tranche et qu'il convainc son frère de partager avec lui. Et Jésus va dire, après cette interpellation, hein, puis il leur dit: gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Alors nous allons tenter d'élargir notre réflexion ce matin en explorant l'histoire de cet homme. La société pourrait qualifier ce gars de chanceux. Non seulement c'est un riche propriétaire, mais en plus, il va accroître sa richesse avec une récolte exceptionnelle. Jésus d'ailleurs le dit: la terre d'un homme riche, propriétaire terrien, avait beaucoup rapporté. Alors cet homme est loin d'être stupide, même s'il est insensé. C'est un homme qui va raisonner et il ne veut pas perdre ce qu'il a gagné. Il raisonnait en lui-même et il se disait: que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Alors il va décider d'abattre ses greniers, d'en bâtir de plus grands et d'amasser son blé, ses biens. Mais ce qui va intéresser Jésus, ce n'est pas ce que cet homme va faire. Mais ce qui se passe dans son cœur, ce riche devenu encore plus riche. Enfin, c'est milliardaire qui a gagné à l'euro million, hein, en gros. Bon, ça sert à rien, mais bon. C'est l'histoire. Je dirai à mon âme, eh bien, mon âme, repose-toi maintenant que tu as beaucoup de biens. Alors, cet homme, décidément, a de quoi reprendre une retraite bien anticipée. Hein ? Sa richesse pourra lui assurer ce qu'il lui faut jusqu'à la fin de sa vie, avec des granges grandes et des récoltes entreposées. Après tout, c'est son droit. Il fait de son argent ce qu'il veut, non ? C'est lui qui l'a gagné. Hein ? Mais ce qui est intéressant, c'est que ses paroles vont révéler la pensée de son cœur. Et nous voyons d'abord que dans la pensée de son cœur et dans ce qu'il vient de dire à travers les paroles, eh bien que cet homme n'a aucune place pour les choses spirituelles, les choses éternelles. Sa motivation concerne ce qu'il peut s'offrir, le fruit de son travail. Une extraordinaire opportunité se présente à lui. Son travail a rapporté beaucoup plus que ce qu'il pouvait espérer. Et à quoi va-t-il penser ? Évidemment, il dit à son âme, « Mon âme, tu as maintenant beaucoup de biens pour plusieurs années. » À vrai dire, ce n'est pas toujours évident dans ce monde de réaliser les conséquences de ses choix. Surtout quand nous sommes confrontés à la possibilité de vivre dans un plus grand confort. Qui ne signerait pas pour avoir un confort plus important. Lorsque nos pensées se focalisent facilement sur les avantages matériels, sans en mesurer forcément les implications. Vous vous rappelez Lot, hein ? Un jour, les serviteurs de Lot avec ceux d'Abraham se sont disputés. Hein ? Et Abraham dit à Lot, écoute, on va prendre chacun maintenant une part du pays. Pour pas que voilà, nos serviteurs se confrontent. Alors, le serviteur leva les yeux, nous dit, Lot leva les yeux et vit dans la plaine du Jourdain, eh bien, une terre entièrement irriguée. Et cette plaine était qualifiée de jardin de l'Éternel. Et cette plaine, c'était Sodome et Gomorre. Ah. Lot voulait le mieux, le meilleur, mais malheureusement, il n'a pas suffisamment pris en considération les dangers d'un tel choix. Parfois, la richesse peut être un piège, la manière dont nous la gérons. Lot aura finalement tout perdu. Plus tard, ce sera Ésaü qui, parce qu'il avait faim, eh bien, va vendre son droit d'aînesse, l'héritage spirituel de la famille, pour caler son estomac. Lui aussi aura finalement tout perdu. Je me souviens de ce chrétien qui habitait en bas de chez nous et qui travaillait comme employé. Et son patron, voyant qu'il travaillait très bien, va lui proposer une augmentation. Et cet homme-là, bien sûr, était content. Donc, dans le bureau, le patron dit, voilà l'augmentation que je vous propose, mais le travail a une contrepartie, c'est que vous devriez venir le week-end pour travailler. Et ce frère qui avait 4 enfants a refusé. Tout le monde a dit, mais tu es fou. Il a répondu, mes enfants sont ados et j'aimerais pouvoir être là le week-end pour les éduquer. Et quelques années après, il a reçu du même patron des avantages plus importants avec voilà, une semaine adaptée. Vous voyez, l'attrait de la richesse. Des fois, elle nous fait prendre des décisions sur lesquelles on peut se mordre les doigts. Cela ne veut pas dire que cet homme riche qui n'a pas pensé aux conséquences éternelles était un athée notoire, ni un blasphémateur. Rien ne nous est dit sur sa conception de Dieu. Peut-être qu'il ne nie pas Dieu, ni son existence, mais il vit comme si Dieu n'existait pas. Combien de fois nous pouvons voir cela malheureusement autour de nous ? Ce monde vit comme si Dieu n'existait pas. On pourrait l'entendre dire, je sais que Dieu existe, mais je peux être heureux sans lui. si nous pensons que notre travail peut nous combler, peut nous rendre heureux, alors nous nous trompons vraiment. C'est bien, on va se reposer toute la semaine avec ça. Hein? Non, pas du tout. Hein? Jésus nous encourage à amasser des trésors d'abord dans le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, je dois considérer le travail non pas comme une sécurité ultime, mais comme d'abord une obéissance à ce que Dieu me demande, ce que Dieu attend de moi. Le travail doit avoir, et les richesses, leur juste place dans ma vie. Il peut y avoir une grande joie à travailler. Le Seigneur ne l'exclut pas. S'il est considéré comme une mission que je dois accomplir, alors là, peut-être on peut dire, mais les retraités ne sont pas concernés, ou les étudiants ne sont pas concernés. Dieu a une mission pour chacun de nous dans ce que nous faisons. Considérons les choses non pas comme une contrainte, non pas comme un but en soi où on peut avoir plus, mais considérons-les comme quelque chose que nous pouvons faire comme une mission pour Dieu. Le catéchisme d'Heidelberg, donc, qui est du XVIe siècle, une confession de foi du XVIe siècle et qui est une des plus influentes dans le monde protestant, commence par deux questions. La première question, c'est: quel est le but principal de la vie? Et regardez ce que le catéchisme répond. Ah, les deux projecteurs n'est pas d'accord. Voilà. Quel est le but principal de la vie? Mon frère, ma sœur, le but principal de la vie, c'est de connaître Dieu car il nous a créés. Et la deuxième question, c'est: comment peux-tu l'affirmer? Eh bien, s'il nous a créés et placés dans ce monde, c'est pour être glorifié en nous. Ah! Cette vie dont il est le créateur, n'est-il donc pas juste de la consacrer à sa gloire? Voilà comment nous devons considérer notre vie, pour sa gloire. Nous devons opérer un changement de mentalité si nous n'avons pas intégré cela. Nous devons considérer le monde du travail, le monde des études, le monde des implications de nos engagements comme un travail pour obéir à Dieu, non pas pour amasser des richesses, mais travailler pour plaire à Dieu. Lui à nos côtés et nous à ses côtés. Voilà le but ultime. Et cela nous libère de beaucoup de craintes et d'inquiétudes et certainement de beaucoup de stress. Alors j'aimais beaucoup ce que... et les ados aiment bien quand je leur dis ça. Hein. Mon professeur de Nouveau Testament grec disait: ratez votre année, mais ne ratez pas votre relation avec Dieu cette année. Eh oui, on met tellement la pression sur le but ultime de quelque chose, alors que notre but ultime, c'est notre relation avec Dieu. Pour ce riche, il n'y avait pas de place pour les choses de Dieu, pas de place pour les vérités spirituelles. Et puis cet homme a un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour les autres. Écoutons-le encore. Voilà ce qu'il dit. Que ferais-je? Eh bien, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé, tous mes biens, et je dirai à mon âme, repose-toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est le nombre de fois où le pronom personnel, je, moi, ou l'adjectif possessif, mon, est utilisé. 13 fois en deux phrases. Ah, que ferais-je, moi? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai mon blé, mes biens, mon âme, etc., etc. Un homme qui est tourné vers lui-même. Il est riche pour lui seul. Voilà le problème de cet homme. À aucun moment il ne pense aux autres. Le but de sa vie est orienté vers lui-même. La pensée biblique place l'homme qui connaît la joie de la réussite sur le registre du devoir. Si un frère réussit, il doit penser aux autres. Partager, c'est bien de sorte que chacun puisse s'en réjouir. Toute richesse doit être considérée comme un don de Dieu qu'on ne peut pas garder que pour soi. Voilà ce qu'est la pensée biblique. D'ailleurs, la joie du partage est quelque chose qui est vraiment biblique. À l'époque des rois, quand le roi de Syrie est venu et s'est assemblé son armée contre le roi d'Israël en Samarie, eh bien, l'étau était tellement important que les gens qui étaient là, pris en otage, eh bien, sont allés jusqu'à dévorer leurs enfants pour survivre. Des réalités historiques. Et par la bouche du prophète Élisée, Dieu a dit « Je délivrerai ». Alors Dieu a délivré et l'ennemi a été chassé sans qu'Israël ne fasse quelque chose. Et là, 4 lépreux sont allés, voyant le camp complètement abandonné, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ramassent les richesses, ils se nourrissent, ils se gavent, comme on dit. Hein, et il y en a un d'eux qui dit « Non, on ne peut pas faire ça, les gars. On ne peut pas garder cette joie pour nous. » Parce que dans la Bible, la joie se partage. Jésus nous a raconté l'histoire d'une femme qui avait perdu une pièce sur les 10. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle l'a retrouvée, dans sa joie, elle va le dire aux autres. Je ne sais pas si tu partages ta joie avec tes frères et sœurs, mais c'est vraiment un concept biblique. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ne gardons pas nos sujets de joie pour nous, mais partageons-les comme nous partageons aussi nos sujets de peine. C'est le fondateur du ketchup, hein, John Heinz. Vous connaissez un peu son histoire, hein? En fait, c'est un marchand de cornichons qui est devenu riche en ayant inventé cette sauce ketchup, hein? Je ne sais pas si vous appréciez ou pas. Le débat n'est pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme très fortuné avait une devise qui était la suivante. Dieu d'abord, ensuite les autres et enfin les cornichons. Intéressant. Hein? C'était un chrétien. Dieu d'abord. Alors les cornichons, c'est hein, les variants, hein, ce n'est pas les autres. Hein? Dieu d'abord, ensuite les autres et enfin la richesse. À la fin. L'homme de notre parabole pouvait se réjouir de cette récolte et il l'a fait. Ce n'est pas un gars qui est triste et déprimé. Il est même heureux. Même il se sent très certainement chanceux. Mais manifestement, il ne vit que pour lui. Alors l'illustration du miroir va nous aider certainement. Quelle est la différence entre un miroir et une vitre? Oui, qui reflète. En fait, la différence entre un miroir et une vitre, c'est la pellicule d'argent qu'il y a au dos. L'un ne l'a pas, l'autre l'a. C'est cette pellicule d'argent qui empêche de voir ou qui permet de voir. Alors, lorsqu'on met cette pellicule d'argent sur une vitre, eh bien, elle reflète l'image. Le miroir reflète non seulement l'image de celui qui regarde, mais malheureusement, le miroir empêche de regarder à travers. Parfois, il suffit juste avoir de la richesse pour se regarder soi-même et ne plus voir les autres. Voilà comment cet homme riche s'est comporté. Il n'a vu que sa personne. Sa cupidité et son égoïsme l'a empêché de voir les autres. L'homme ne peut pas vivre de manière désincarnée ou déconnectée des autres, comme si les autres n'existaient pas. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Dieu ne nous dit pas, ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous vivions pour nous-mêmes, pour que nous nous servions nous-mêmes, mais pour que nous servions aussi les autres. Pratiquez, dit la Bible, en toute occasion, le bien envers tous, c'est Galates 6, 10, hein, surtout envers les frères en la foi. Alors le riche de cette parabole n'a qu'un seul désir, garder ses biens pour lui. Hein. Il se sent le roi du monde ce jour-là. Mais devant Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec les biens terrestres qu'il nous a confiés. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Alors, il y en a un qui a fait le constat du travail dans ce monde. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup réfléchi. Il s'appelle Salomon. Écoutons le constat de Salomon sur le travail. Voilà ce qu'il dit. J'ai haï tout le travail, toute la peine que je me suis donné sous le soleil et que je dois laisser la jouissance à un autre qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé? Et pourtant, cet autre sera le maître de toute la peine que je me suis donné en usant de sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire que si je pense que mon travail est la chose la plus importante et ultime, alors je me trompe et je peux me décourager. Je me suis découragé, dit Salomon, de m'être donné toute cette peine qui finalement va être gaspillée par un autre. En réalité, le problème n'est pas philosophique, il n'est pas économique. Le vrai problème est spirituel. Mon frère, ma sœur, mes amis, rien, absolument rien ne pourra nous satisfaire durablement dans cette vie. Si nous acquérons quelque chose, la joie de cette acquisition va partir. Nous avons besoin de revoir sérieusement nos priorités, surtout en ces temps troublés. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a remarqué quand il y a des moments de crise, hein, comme en 29, comme dans toute l'histoire des crises économiques de cette terre, l'homme a un instinct, c'est de se tourner vers la spéculation. Jamais les jeux d'argent ne sont aussi importants qu'en période de crise. Les gens jouent, pourquoi ? Pour espérer gagner, pour pouvoir se réfugier. Notre refuge n'est pas dans ce que ce monde peut nous promettre. Notre refuge est en Dieu. Rien ne pourra nous satisfaire durablement dans cette vie, en dehors de Dieu. Jésus est venu apporter la vie. En effet, il est venu et il a enseigné aux hommes qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous l'avons reçu par la foi, alors il est notre vie. C.S. Lewis disait quelque chose de pertinent. Tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur devient un démon. Vous pensez que les richesses n'attendent rien en retour? Elles rendent l'homme esclave même de ses propres richesses. Elle enferme l'individu libre dans la prison de l'avoir. Et c'est Paul qui dit en Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et c'est pourquoi dans Colossiens 3:10, Paul dit que la cupidité est une idolâtrie, parce qu'elle remplace Dieu. Et beaucoup sont tombés dans le piège. Alors voilà que dans le cœur de cet homme, il n'y avait pas de place pour les choses éternelles, pas de place pour les autres, et encore moins pour dire merci, pas de place pour la reconnaissance. Réjouis-toi, mon âme. Voilà, il fait monter sa prière devant l'autel de son moi. Cet homme s'adore lui-même parce qu'il a eu du succès. Tandis que, un autre exemple, quelqu'un qui a eu du succès a tourné son âme vers Dieu et il a adoré son créateur, c'est David. Que dit David? Eh bien, il secoue son âme. Il dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Ce matin, Anaël nous a dit, combien de bienfaits Dieu a-t-il permis, procuré dans votre vie? En réalité, il y a tout ce dont nous nous rappelons, tout ce que nous avons oublié et tous les bienfaits dont nous ne sommes même pas conscients. Ils sont innombrables. Ô Dieu, dit David dans Psaume 139, tes pensées semble impénétrable, que la somme en est grande. Je ne peux les compter. Combien de fois as-tu dit merci à Dieu? On est tellement là à à revendiquer, et on est humain. Mais regardez ce que David dit. Mon âme, bénis l'Éternel, toi, et que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et surtout, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne les fautes. C'est un bienfait de l'Éternel. Avez-vous dit merci à Dieu parce qu'il a pardonné vos fautes en Jésus? C'est lui qui guérit toutes les maladies. Des fois, on est blessé par quelque chose. Il guérit cela. Parfois, on est dans des situations de santé où l'on s'adresse à lui. C'est lui qui rachète ta vie du gouffre et qui couronne de bienveillance, qui te couronne et de compassion. Avons-nous remercié Dieu pour cela? On pourrait remercier Dieu et trouver des dizaines de sujets à chaque chapitre de la Bible. Cet homme raisonne en lui-même. Et s'il avait raisonné d'une manière saine et sensée, il aurait certainement dit « Seigneur, merci pour cette terre, merci pour la météo favorable, merci pour la santé que tu m'as donnée, pour cette semence qui a porté du fruit et cette belle récolte, parce qu'en réalité, tout nous vient de Dieu. Savons-nous être reconnaissants ?» Rappelez-vous les conséquences du péché d'Adam. Dieu a dit à Adam et Ève, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Et que fait ici Dieu? Il fait grâce. Il permet que ce sol, maudit à cause d'Adam, porte du fruit pour cet homme. Savons-nous être reconnaissants? Savons-nous dire merci à Dieu? Quelqu'un a dit que la reconnaissance va toujours à ce qu'on aime. Quand on aime l'argent, on se félicite d'en avoir. Quand on s'aime, soit on se glorifie de ce qu'on fait. Mais quand on aime Dieu, on est reconnaissant envers lui. Cette parabole a une conclusion, finalement, qui dit que cet homme riche est en réalité bien pauvre. L'histoire ne s'arrête pas là. Jésus dit, eh bien, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans ou 30 ans, mais cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à quoi cela, à qui cela servira-t-il? Il en est ainsi, dit Jésus, pour celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche selon Dieu. Le problème n'est pas l'argent, le problème n'est pas la richesse, le problème c'est ce cœur qui fait confiance dans les richesses que l'homme dispose. Si nous pensons vraiment, des fois moi j'entends dire « Ah, si j'avais plus d'argent, je serais plus généreux. » Mais j'aimerais voir ça. Hein? Si nous pensons que l'argent va résoudre tous nos problèmes, oh, on peut se tromper. Bien sûr, ça apporte un certain confort, on ne peut pas le nier. Mais je peux vous garantir que j'ai vu des situations de riches extrêmement seuls, tourmentés, est véritablement pauvre en amis et en relations. Nous sommes pauvres aux yeux de Dieu et insensés si nous pensons que notre refuge est en dehors de lui. Pauvres et insensés, alors que nous devrions être riches en sérénité, riches en foi, riches en victoire, riches en joie, riches en vraie vie, que Dieu nous donne. Et ce n'est pas la multiplication des choses où Dieu n'est pas présent qui sont une bénédiction. Si Dieu n'est pas présent malgré une vie riche, malgré 100 ans de vie, une famille énorme et une renommée, alors notre vie n'est qu'illusion. Être riche selon Dieu. Cet homme ne sait pas que sa vie est finie là. En réalité, rien dans ce monde ne nous appartient. Job dit, nous sommes venus nus et nous partirons comme nous sommes venus, sans rien rapporter avec soi. En réalité, vous savez, nous ne contrôlons pas grand-chose. Hein? Eh oui, on s'en rend compte là. Hein? Mais est-ce que nous sommes assez méfiants quant à aux illusions de ces richesses qui nous sont proposées? Si notre vision de l'avenir ne s'arrête qu'à notre vie ici-bas, alors nous sommes vraiment malheureux. Cet homme avait oublié sa vision de lever les yeux vers le ciel. Alors la conclusion de Jésus est claire, cet homme est un insensé, car son avenir n'incluait pas ni Dieu, ni le royaume de Dieu. C'est pourquoi cette parabole finit comme ceci, c'est pourquoi je vous dis, ajoute Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'inquiétude vient du manque de confiance. Et parfois, nos richesses nous rendent plus inquiets, certainement, que ce qu'elles peuvent nous apaiser. Un jour ou l'autre, nous serons tous appelés à abandonner nos biens, nos richesses, nos intérêts personnels, même notre vie, un jour ou l'autre, notre âme, mon âme, sera redemandée. Alors, j'espère que nous pouvons faire sien de ce verset. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Ainsi, nous serons trouvés riches selon Dieu, si Jésus est notre bien le plus précieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.